Bien, bonsoir à tous et à toutes. Donc nous entamons notre troisième étape de notre petit parcours qui est consacré ce soir à une grande fresque historique. Je ne vais pas, en une heure de temps, faire de vous des historiens du monde musulman. On va balayer 14 siècles et de nombreux continents. Mais le but de cette séance, c'est de prendre un peu la mesure de la diversité du monde musulman à travers son déploiement historique et géographique, et de percevoir aussi les grandes questions qui traversent l'histoire et qui peuvent aider à comprendre aussi le présent. Donc je ne rentrerai pas du tout dans les détails, et ceux et celles qui souhaiteraient avoir plus d'informations sur telle ou telle période de l'histoire du monde musulman trouveront bien sûr nombre de références pour développer. Mais avant de nous lancer précisément dans cette étape telle qu'elle est décrite dans la feuille de route que vous avez reçue, je voudrais faire une petite transition avec le cours de la semaine dernière, dans la mesure où j'ai été pris un peu par le temps et que j'ai fort résumé à la fin de la vie du prophète pour terminer dans les temps. Donc nous avions laissé le prophète à sa mort en 632 à Médine, et je voudrais peut-être simplement rappeler un des grands acquis de la situation au moment de la mort du prophète telle que la tradition musulmane nous le rapporte. Lorsque le prophète a émigré à Médine, il y a eu tout d'abord une phase de première organisation de la communauté. Organisation de la prière, organisation de la vie commune, organisation de toutes les questions pratiques. Donc toute une organisation d'abord. Puis il y a eu un deuxième grand acquis de cette période à Médine, mais c'est la reprise de la Mecque. Donc la ville de la Mecque qu'il avait dû fuir est reprise par les musulmans et restituée au monothéisme, les cultes païens en étant proscrits. Un troisième point, vous vous rappelez qu'à Médine, la présence juive était plus importante. Pendant cette période aussi, les juifs sont chassés de Médine pour une part et massacrés pour une autre part. Donc il y a un élément de violence dans l'acte de naissance de l'islam qui est là bien présent, et plus particulièrement à l'égard des juifs. Durant cette période, les chrétiens sont relativement peu concernés, si ce n'est pour différentes tribus arabes qui feront obédience au prophète Mohammed, des tribus aussi bien du nord de la péninsule arabique que du sud, et parmi lesquelles il y a également des chrétiens qui, eux, pourront garder leur religion, mais seront par contre soumis à un impôt de capitation particulier, hein, qui est la base du statut de dhimmitude, soit de minorité ou de protection, que la communauté musulmane accorde aux chrétiens, mais dans une situation subalterne. Ce statut de dhimmitude donc trouve son origine aussi vraiment dans les toutes premières années de l'existence de la communauté telle que la tradition nous la rapporte. Voilà un peu la situation. Donc Médine, la Mecque, déjà quelques tribus, aussi bien dans le nord que dans le sud de la péninsule arabique, qui ont fait obédience. Des razzias dans le nord et dans le sud, des conquêtes relatives, c'est plus de grandes expéditions que de véritables conquêtes, mais déjà une série de tribus qui se rallient. Voilà donc la situation que la tradition nous rapporte au moment de la mort du prophète Mohammed en 632. Alors cette mort intervient de façon inattendue. Et sans doute, le prophète espérait-il pouvoir encore, durant de longues années, parachever son œuvre et préparer sa succession. Il n'avait pas d'héritier mâle. Son fils Ibrahim était mort en bas âge quelques mois auparavant. Et aucune disposition testamentaire, aucun passage du Coran ne précisait comment il fallait désigner celui qui lui succéderait, du moins au plan politique, à la tête de la communauté musulmane. Car quand le prophète Mohammed meurt, c'est bien sûr celui qui, pour les musulmans, a reçu la révélation du Coran, mais c'est aussi le chef d'une communauté politique qui disparaît. Donc, si on peut considérer que la fonction prophétique, il n'y a pas lieu de lui succéder, il y a bien une fonction de type plus politique, qui intègre un volet religieux, qui nécessite par contre une succession. La communauté que le prophète laisse à sa mort est en fait la réunion de beaucoup de composantes différentes. Si on prend simplement à Médine, il y avait la population autochtone qui les avait accueillis, il y avait les émigrés qui avaient accompagné le prophète depuis la Mecque, il y avait des convertis de fraîche date, des compagnons de la première heure, à la Mecque qui avait été reprise, les conversions des païens étaient-elles sincères ou plus superficielles, tous les grands clans de la Mecque qui était une grande ville commerciale, les grandes familles commerçantes, comptait bien reprendre la main au moment où le prophète disparaîtrait. Donc, cette unité que le prophète a pu réaliser de son vivant est relativement fragile. Et ces divisions vont très rapidement réapparaître et se manifester dans sa succession. Vous voyez sur la feuille que je vous ai donnée comme plan du cours d'aujourd'hui que la première étape qui est signalée, c'est celle de l'état de Médine qui couvre une trentaine d'années de la mort du prophète en 632 à 661 pour laquelle il y a quatre califes, un mot qui veut dire lieutenant, hein, donc lieutenant du prophète, quatre califes que la tradition appelle les bien guidés. Parce que cette période est une période qui est idéalisée. C'est l'âge d'or. Quand aujourd'hui on entend parler de salafites, hein, de gens qui veulent revenir à la vie des anciens, cette vie des anciens qu'ils idéalisent est cette période de l'état de Médine et des quatre califes bien guidés, qui sont Abou Bakr, Omar, Ousmane et Ali. Abou Bakr et Omar sont deux beaux-pères du prophète, tandis que Ousmane et Ali sont ses gendres. Donc on reste dans une famille propre, dans la famille proche, pour essayer de maintenir cette unité que le prophète avait inaugurée au cours de sa vie. Ce qu'il faut souligner, c'est que même si cette période est tout à fait idéalisée dans la mémoire musulmane, c'est que trois de ces quatre moururent assassinés. Donc ce qui montre que les rivalités n'était pas complètement éteinte. Et cette question politique, hein, de la succession du prophète fut à l'origine, selon la tradition toujours, du schisme, de la séparation que nous connaissons encore aujourd'hui entre sunnites et chiites. C'est que le quatrième calife bien guidé, Ali, a été soupçonné d'avoir trempé dans l'assassinat de son prédécesseur, Uthman. Et de ce fait, s'est trouvé contesté par ceux qui se reconnaissaient davantage dans la figure de Uthman. Et un personnage influent et riche, puissant, Muawiya, réclamera vengeance. Et un conflit va naître entre les partisans de Ali et les partisans de Muawiya. Un conflit qui tournera à l'avantage des partisans de Muawiya. C'est dans cette bataille qui est située en 661 à Siffin que la tradition voit le point de naissance de la séparation entre sunnites et chiites. Les sunnites, les gens de la tradition, étant ceux qui étaient avec Muawiya, tandis que les chiites sont les partisans de Ali. Ali, au niveau familial, est plus proche du prophète. Donc les chiites se revendiqueront toujours plus sensibles à cette proximité du prophète et à la dimension prophétique de la révélation, en particulier dans ses revendications de justice sociale et d'égalité. Tandis qu'on pourrait dire que Muawiya, c'est plutôt le parti des riches, des commerçants, des puissants qui aiment reprendre la main et qui se revendiquent de la tradition, mais sans excès, qui ont le sens, qui ont le bon sens des affaires et qui ont vu qu'il est temps de reprendre la main et qui seront très largement majoritaires à travers l'histoire. Aujourd'hui, on considère qu'il y a environ 90% de sunnites et 10% de chiites. De ce même conflit, de cette bataille de Siffin, naît aussi un troisième courant beaucoup plus discret et qui existe encore jusqu'à aujourd'hui, qui sont ceux que l'on appelle les Kharijites, ceux qui sont sortis. C'est-à-dire ceux qui ont refusé que l'arbitrage des armes soit celui qui tranche la légitimité de la succession. Cette brève période, c'est même pas 30 ans, reste dans la mémoire musulmane l'âge d'or par excellence. Il ne s'agit pas encore de dynastie, et à la mort du calife, son successeur est désigné par cooptation qui, comme nous l'avons vu, ne fait pas toujours l'unanimité. C'est vu comme l'âge d'or parce que c'est le temps des compagnons du prophète. La tradition nous dit aussi de la réunion des textes coraniques. La tradition attribue au troisième calife bien guidé, Uthman, le fait d'avoir collecté le texte coranique, mais nous reviendrons plus précisément sur cette question la fois prochaine. Pour ma part, je considère que dans cette période des califes bien guidés, on est encore dans une reconstruction de type récit d'origine de ce qu'on a été, et dans laquelle on a donc la nécessité de projeter tous les traits fondateurs de l'identité ultérieure. Mais, comme nous le verrons la semaine prochaine, la question de la compilation du Coran est bien plus complexe, et les actes les plus importants semble avoir été posé bien ultérieurement. Donc si la tradition musulmane met cette période comme l'âge d'or, c'est elle a la nécessité aussi d'y projeter tous les actes fondateurs dans celui de la collecte de la révélation et de la mise en place de la sunna, c'est-à-dire de la tradition du prophète, puisque c'est le temps des compagnons, c'est l'époque où l'on connaît, où on peut encore avoir des témoignages oraux, des faits et dits du prophète. C'est le temps aussi des premières grandes conquêtes, la Syrie, l'Égypte, déjà une première expédition jusqu'à l'Andalous, donc l'entrée de l'Espagne, et des grandes expéditions jusqu'au bord de l'Indus. Hein, ce sont des expéditions avec des conquêtes relatives, et c'est aussi pendant cette période, pour la tradition, que s'ébauchent les premières réflexions sur les connaissances ou sur les sciences religieuses. Donc après le prophète, donc une première étape très idéalisée, hein, qui est celle des quatre califes bien guidés. Et puis, on rentre sans doute dans l'histoire plus réelle, avec tout ce que cela représente aussi d'enjeux, de conflits de pouvoir, etc. La deuxième étape que j'ai signalée pour ce cours d'aujourd'hui, c'est le développement culturel sous les grands empires. Une première étape, c'est la dynastie Oumeyyade, ou Omeyyade, hein, suivant les orthographes, et son empire de 661 à 750, donc un peu moins d'un siècle, qui prit précisément naissance suite à la bataille de Siffin, quand Mouawiya s'empara du pouvoir par les armes, et où se consomme le schisme avec les partisans de Ali. Les souverains gardent le titre de calife à ce moment-là, c'est-à-dire de lieutenant du prophète, mais tout en soulignant le caractère uniquement temporel de leur souveraineté. Les conquêtes militaires et l'expansion territoriale se développent, à l'est jusqu'aux frontières de l'Inde et de la Chine, à l'ouest avec l'Espagne et des avancées jusque dans le sud de la Gaule. Hein, donc la fameuse bataille de Poitiers, c'est 732, hein, donc c'est cette période-là, hein, donc où un coup d'arrêt est mis à une expansion de l'islam en Europe. Mais il faut bien se dire qu'on n'est pas non plus dans une perspective simplement, hein, de conquête agressive. Hein, si les musulmans rentrent en Espagne, c'est suite au conflit entre Wisigoths, parce qu'un des partis a fait appel à leurs troupes pour venir à son aide. Hein, donc on ne peut pas aborder l'histoire simplement comme une opposition entre deux blocs et de conquêtes de part et d'autre. Il y a aussi beaucoup d'alliances de part et d'autre, comme nous le verrons tout à l'heure. C'est un peu le but de notre séance d'aujourd'hui, hein, c'est de permettre de prendre la mesure de cette diversité, parce que je crois qu'au niveau des imaginaires, nous sommes tous marqués par un espèce d'imaginaire de confrontation de bloc à bloc. Or que de part et d'autre, il y a de grandes diversités, de grands enjeux différents, hein, qui ont été partagés. Et pour comprendre les défis d'aujourd'hui, je crois qu'il est important que nous puissions percevoir ce caractère pluriel de ce qui fait nos identités respectives. Donc les grandes conquêtes de la dynastie Omeyyade, et cette époque se caractérise comme un empire arabe, c'est-à-dire où la langue et la race arabe ont priorité sur les autres, contre les principes mêmes de l'islam, qui est une religion fondamentalement égalitaire. Et ce sera d'ailleurs le talon d'Achille de l'empire Omeyyade, car plus il se développera territorialement, plus les Arabes seront minoritaires dans la population, et que considérer la majorité comme des citoyens de seconde zone, ça ne tient pas très longtemps. Donc ce sera le talon d'Achille de cet empire Omeyyade. Sous les Omeyyades, la capitale n'est plus à Médine comme au temps du prophète, mais à Damas, où les influences byzantines s'exercent dans l'administration de l'État et la vie culturelle. Les premières traductions arabes de la science et de la philosophie grecque apparaissent, et c'est l'âge aussi des grands poètes classiques. Donc on voit à ce moment-là, hein, sous l'Empire omeyyade d'abord, et on le verra ensuite sous les Abbassides, un développement culturel très important et une activité intellectuelle. Donc c'est très vraisemblablement le lieu et le contexte où se construisent et se produisent les récits d'origine que nous avons abordés jusqu'à maintenant. Donc c'est une reconstruction pour exprimer une identité d'un empire qui se constitue, non pas du temps du prophète Mohammed, mais qui se constitue plus tard et qui a besoin de mythes fondateurs pour affirmer et construire son identité. Les Omeyyades s'étaient organisés en dynastie selon un principe héréditaire qu'aucun texte positif n'exigeait, et ils suscitèrent de ce fait-là de violentes oppositions. Leurs adversaires étaient d'une part les partisans de Ali, bien sûr, le dernier des califes bien guidés, et d'autre part ceux que l'on appellera les Abbassides, qui se réclamaient de Abbas, l'oncle de Mohammed, connu pour sa piété. Et c'est la piété de ce Abbas qui sera mobilisatrice pour contester ce pouvoir omeyyade qui se met en place comme une dynastie héréditaire et qui discrimine les populations par rapport aux Arabes qui ont la priorité. Et les Abbassides uniront leur propagande précisément au nom de l'universalisme de l'islam. Et de ce fait, ils gagnèrent la faveur des convertis non-arabes, et au terme d'une lutte sanglante, ils triompheront, et les Omeyyades seront massacrés à Koufa, à l'exception d'un seul d'entre eux qui arrivera à fuir, et qui se retrouvera alors en Espagne, ce qui fait qu'on retrouvera une dynastie Omeyyade en Espagne plus tard. Dans le développement culturel des grands empires, donc, premier grand déploiement, avec déjà un grand déploiement culturel aussi des influences byzantines importantes, sous les Omeyyades jusqu'à 750. Après ça vient l'époque des Abbassides, qui connaît au départ une relative unité, mais comme vous le voyez sur le petit plan, qui est très vite aussi l'époque de l'unité brisée. Le monde musulman, qui insiste tellement sur son unité à travers l'histoire, finalement l'aura connu très peu de temps. Nous le voyons dans le point suivant. Cette dynastie des Abbassides se prolongera durant 5 siècles, avançant encore vers l'est. La capitale fut transférée par eux de Damas à Bagdad, et qui devient un centre rayonnant de culture et de civilisation. À l'influence byzantine qui s'était exercée sous les Omeyyades, s'ajoutent avec les Abbassides des influences iraniennes, et elles vont marquer profondément la sensibilité musulmane. La grande époque fut les 9e et 10e siècles de notre ère, une époque où poètes, musiciens, chanteurs, chanteuses, danseuses et joueuses de lutte animait la cour califale. Donc, bien loin des tableaux que veulent nous dresser aujourd'hui les partisans de l'État islamique et autres, mais qui, eux, évidemment, ne se réfèrent pas à cette période-là, mais à une reconstruction imaginaire de la période des califes bien guidés. Et vous voyez que l'islam a connu dans son histoire de ces périodes très différentes de ce que certains veulent nous faire croire aujourd'hui en termes de rigorisme, bien que leurs pratiques semblent parfois très différentes. C'est l'époque aussi où Bagdad connut l'invasion intellectuelle de la pensée grecque, avec des équipes de traducteurs chrétiens, musulmans et juifs qui travaillent pour le compte des califes. Donc il y a tout un travail de traduction qui est fait, et on a longtemps considéré que les Arabes avaient joué un rôle très important dans la transmission de la pensée grecque hein, vers l'Europe, vers l'Occident, au Moyen-Âge. Maintenant, on relativise un petit peu peut-être l'exclusivité de leur rôle, mais il reste qu'il y a un rôle très important qui est joué par le monde arabo-musulman à cette époque dans la transmission de la pensée. Il faut bien se dire que nous sommes à ce moment-là, ben, au 9e, 10e siècle de notre ère, ici en Europe, on n'avait pas de grand centre intellectuel de ce point de vue-là. Donc, tous ces traducteurs travaillaient pour le compte des califes. La révolution abbasside s'était faite au nom de l'universalité de l'islam et de son unité, mais très vite, en soulignant l'universalité, ben, ils ont permis aussi le développement de quasi-dynasties autonomes au sein même de leur empire, des espèces de dynasties de vizirs, de premiers ministres, dont certains étaient d'obédience alide, donc chiite. Et jusqu'au XIe siècle, l'imprégnation chiite fut une réalité très vivante à la cour de Bagdad. Et dès le Xe siècle, par ailleurs, il y a aussi des mercenaires turcs qui ont pris une importance grandissante. Au XIe siècle, les Turcs seldjoukides d'abord, puis les Kurdes ayoubides, qui deviennent presque des États dans l'État. Hein. Parmi les Kurdes ayoubides, il y a le célèbre Saladin, hein, de toutes nos légendes et de nos contes. Qui furent les défenseurs de l'orthodoxie sunnite. Plus d'une fois, des principautés pratiquement indépendantes se sont constituées, reconnaissant cependant la souveraineté nominale du calife abbasside et qui se contentait de cette situation de fait. Donc c'est un empire très vaste, mais qui tolérait, au prix d'une reconnaissance nominale du califat, de quasi-dynastie autonome au sein même de l'Empire. C'est ainsi que les Seldjoukides fondèrent un vaste empire de culture irano-islamique de 1038-1194 environ. Le temps des Abbassides connut aussi des mouvements révolutionnaires de revendication sociale et nationale, portés alors souvent par les mouvements chiites. Hein, il y a une façon de lier l'histoire du chiisme, de le voir comme un espèce de fil rouge révolutionnaire qui traverse toute l'histoire du monde musulman et qui ravive sans cesse hein, cette revendication de type égalitaire et social. Hein, c'est une façon de voir l'histoire du chiisme à travers l'histoire du monde musulman. Ce fut le temps des Abbassides également, mais, du point de vue de l'Occident, le temps des croisades, hein, de 1095 à 1270, si l'on prend les croisades dans leur sens restreint, qui sont restées dans la mémoire musulmane comme une invasion injustifiée et une volonté impérialiste de conquête. Et lorsque les croisés parlent des musulmans, ben ce sont précisément les Abbassides qui sont leurs interlocuteurs ou leurs adversaires. Parmi ces dynasties qui se développent au sein de l'Empire Abbasside, il y en a une en particulier qui est fort importante et qui prendra tout à fait son autonomie, ce sont les Fatimides du Caire, de 929 à 1171. C'est le plus grand rayonnement chiite de l'histoire de l'islam. C'est une dynastie qui est venue du Maghreb et qui régna au Caire en brillant d'un indéniable éclat culturel. Et le témoignage le plus célèbre jusqu'à aujourd'hui est la fondation de la grande mosquée d'El-Azhar au XIe siècle, qui existe encore aujourd'hui, avec son université qui fait autorité dans le monde musulman jusqu'à aujourd'hui. Bon, évidemment, entre-temps, l'Égypte n'est pas restée sous régime chiite, mais est redevenue sunnite. Mais la fondation des Al-Azhar remonte à l'époque fatimide. Alors, les croisés, c'était un temps allié à l'Égypte fatimide contre les sunnites de Damas. Donc là, c'est un élément qui est important aussi. Hein, parce que quand, par exemple, quand on présente le récit de Saint-François, hein, qui part rencontrer le sultan, il ne va pas rencontrer un allié, pas un adversaire, hein, il ne va pas se jeter dans la gueule du lion. Donc il part chez les Fatimites, dont les croisés espèrent bien pouvoir se faire l'allié contre les Abbasides. Hein, donc, une relecture de l'histoire simplement en termes d'opposition religieuse n'est pas juste. Hein, il y a des enjeux et des conflits de type politique également, et qui font que les alliances ne se limitent pas aux frontières religieuses. Les croisés se sont cassés les dents en imaginant qu'ils pourraient faire alliance efficace avec les Fatimites, et une conséquence finalement de ces manœuvres d'approche sera finalement la fin des Fatimites, parce que les Abbasides ne supporteront pas de voir cette menace potentielle aux portes de leur empire. Ce sera d'ailleurs Saladin, le Kurde, hein, qui reprendra le Caire et qui réprimera sévèrement les tendances chiites égyptiennes. Donc, un très brillant et beau moment hein, de cette histoire du monde musulman avec ce rayonnement de la dynastie fatimite. Il faut dire un mot alors de l'empire oumayyade d'Espagne. Je vous disais qu'un des oumayyades avait échappé au massacre par les Abbasides. Il se réfugie en Espagne. La première conquête de l'Espagne qui avait été faite, qui s'était soldée par la bataille de Poitiers, n'avait pas abouti à constituer un ensemble très, très cohérent, et très vite, tout s'était démembré en de nombreux royaumes, et Abdelrahman, le seul survivant du massacre des Omeyyades, aboutit à Cordoue, et il faudra près de deux siècles au souverain de Cordoue pour refaire l'unité du pays. Et en 929, Abdelrahman III prendra le titre de calife, de lieutenant. Donc on se retrouve avec plusieurs lieutenants du prophète. Donc en termes symboliques, c'est très marquant pour la mémoire musulmane. L'Empire Omeyyade d'Espagne durera jusqu'à 1031. Et il y eut donc, à cette époque, à l'est et à l'extrême ouest du monde musulman, deux califats opposés, prétendant l'un et l'autre à la légitimité de la succession du prophète. Cordoue, pour ceux qui ont eu l'occasion de visiter l'Andalousie, on en voit encore avec resplendissement tout le développement, hein, cultivera comme sa rivale les arts, les lettres et les sciences qui brilleront d'un éclat très vif, et les arts, l'architecture en particulier. Et après la chute de cet empire omeyyade, l'Espagne musulmane connaît un nouvel effritement. La relève sera prise par des dynasties berbères, les Almoravides, les Almohades ensuite, mais la reconquista espagnole est en marche. Et ces moments décisifs se situent en 1085 avec la prise de Tolède et après le déclin des Almohades, la prise de Séville en 1248. Seul survivra encore plus de deux siècles la principauté de Grenade, gouvernée par la dynastie Nasride jusqu'en 1492. Donc, l'Empire Abbasside, les Fatimites, l'Empire Omeyyade d'Espagne, il faut dire alors un mot du Maroc, qui connaît une histoire particulière tout au long de l'histoire de l'islam, et ça c'est intéressant à bien percevoir aussi, pour percevoir des spécificités hein, jusqu'à aujourd'hui. Donc le Maroc à cette époque-là a une histoire propre, et il aura son histoire propre aussi sous l'Empire ottoman, puisque les Ottomans ne prendront jamais le Maroc. Hein, cela se marque d'ailleurs de façon très nette, hein, pour ceux qui ont déjà voyagé, au niveau culinaire. Hein, on voit bien la frontière entre les deux. Hein, donc, au Maroc, on rentre dans une cuisine spécifique, tandis que dès qu'on passe la frontière, et finalement, on rentre dans la grande cuisine ottomane qu'on retrouve jusqu'en Grèce. Quoi. Le Maroc connaît, durant cette période, différentes dynasties. Il y a un royaume chiite, mais aussi des royaumes berbères qui se développent. D'autres issus du Rif marocain, donc on a différentes formes de structures qui se font dans le Maroc, mais donc qui ne se trouvent pas intégrées dans le grand mouvement impérial abbasside. L'état de Médine, période idéalisée, le développement des grands empires, Omayyades, Abbasides, et un premier éclatement, et puis vient une période assez troublée, qui est marquée par les invasions mongoles et les luttes turco-mongoles. À partir de 1251 jusqu'au 15e siècle, c'est une période confuse, avec un déferlement de Mongols, bouddhistes au départ, lentement islamisés, et au début, les croisés, bon, si on prend les croisades dans leur sens alors plus étendu, ont cru que ces Mongols ont pris ces Mongols comme des alliés chrétiens potentiels. Et c'est à cela que remonte le mythe qu'on retrouve dans plusieurs légendes médiévales occidentales, le mythe du prêtre Jean. Hein, le prêtre Jean qui est à la fois prêtre et roi, hein, et qui va nous permettre de vaincre les musulmans, puisqu'il est à la fois prêtre et roi des Mongols, et donc ça permettra l'alliance. Donc les croisés ont à un moment pris ces Mongols pour des chrétiens, alors qu'au départ ils étaient bouddhistes, mais qui ont été lentement islamisés. Donc il y a les invasions mongoles durant cette période. Pour l'Égypte, ce sont les Mamelouks, les descendants d'esclaves affranchis, qui prendront le pouvoir et qui eux arrêteront les invasions mongoles et ne leur permettront pas de prendre l'Égypte. Les Mongols vont constituer alors un premier empire, pourrait-on dire, hein, en proclamant l'islam religion d'État. Au XIVe siècle, l'orthodoxie sunnite sera défendue par les Turcs ottomans d'Anatolie et par les Turcomans de Transoxiane sous Tamerlan, Timur Lang. Après avoir lutté contre les Mongols, Timur Lang, qu'on connaît en Occident comme Tamerlan, s'attaquera à l'Ottoman Bajazit, qu'il vaincra à la bataille d'Ankara. Mais il n'arrivera pas à réaliser l'unité dont il avait rêvé, et ce sont des principautés rivales et ennemies qui se développeront. Donc, on voit à cette période, hein, de 1250 au 15e siècle, les invasions mongoles, des rivalités turques, une période de grande instabilité, sans finalement de grandes réalisations ni politiques ni culturelles particulières à signaler. Et cette période fait transition, si vous voyez le plan, vers ce qu'on doit déjà considérer comme l'époque moderne, qui est l'époque qui va du 15e au début du 20e siècle. Avec tout d'abord la pièce majeure, qui est l'Empire ottoman. À la mort de Tamerlan, les Turcs ottomans reprennent l'avantage sur leurs rivaux. La conquête de Constantinople, Istanbul, Byzance, c'est toujours la même ville, conquête de Constantinople par Mehmet II en 1453, aura une importance considérable pour l'évolution culturelle et politique du monde musulman et de l'Europe. L'Empire ottoman placera sa capitale à Istanbul, Constantinople. Le sultan ottoman, bien que n'étant pas de la tribu de Quraysh, la tribu du prophète, ni même de race arabe, c'est un Turc, le sultan reprend à son compte le titre de calife, alors que il était traditionnellement supposé que ce soit quelqu'un et de la tribu du Quraysh et au moins arabe, et l'Empire étendra son pouvoir direct ou sa suzeraineté sur l'Asie mineure et la Mésopotamie, les Balkans, la Crimée, les îles de la mer Égée, l'Égypte, le Maghreb, à l'exception du Maroc, comme je le signalais tout à l'heure, et cet empire énorme connaîtra aussi un développement culturel remarquable, qui culminera au XVIe siècle avec la figure emblématique de Soliman le Magnifique. Après la mort de Soliman le Magnifique, c'est en 1566, donc on est au XVIe siècle, cet énorme empire connaîtra le début de sa décadence et son démembrement progressif. Nous entrons aussi dans la période où l'Europe devient plus conquérante, donc où l'Europe s'intéresse à ce qui se passe autour d'elle, et la diplomatie occidentale utilisera, à propos de la fin de l'Empire ottoman, l'expression du démembrement de l'homme malade. Et ce démembrement de l'homme malade se poursuivra jusqu'à la fin du XIXe siècle et même début du XXe siècle. Certaines de ses possessions deviendront indépendantes, comme la Grèce, d'autres des protectorats ou des colonies européennes, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, et la fin de l'Empire ottoman sera décidée au lendemain de la Première Guerre mondiale, lorsque les Alliés imposeront la fin du califat et la création d'une république turque laïque dans le cadre de ses frontières actuelles. Ce sont les différents traités de Versailles en 1919, de Sèvres en 1920 et de Lausanne en 1923, qui se complètent finalement. Donc on considère en général que c'est le traité de Versailles qui signe déjà la fin de l'Empire ottoman. Et ce que les Alliés imposeront alors, c'est une république turque laïque qui s'appuie sur le courant laïque et nationaliste de Mustafa Kemal Atatürk, père de la Turquie moderne. La fin de l'Empire ottoman a été une période de forts troubles et de grandes violences. Nous commémorons ces jours-ci le centenaire du génocide qui a frappé les Assyriens, les Arméniens, mais aussi les Chaldéens, les chrétiens de la Turquie actuelle. Donc c'est un moment très sombre, évidemment, de l'histoire islamo-chrétienne, mais qui se situe vraiment à un moment de déclin d'un empire, les périodes les plus glorieuses de l'Empire ottoman ont plutôt été des périodes où toutes, c'était pas une question religieuse, mais finalement toutes les cultures, toutes les traditions avaient une relative autonomie. Les Ottomans avaient un empire énorme, et la façon de gérer cet empire a finalement été de conserver toutes les traditions locales. Donc toutes les communautés locales se gèrent selon leurs traditions propres, et donc ils n'avaient pas besoin d'organiser une administration parfaitement unifiée. Pour l'époque moderne, il faut dire un mot encore de l'Empire indien, hein, donc un tout autre contexte, des grands moghols. Cet empire est d'obédience sunnite, il est d'origine turcomane et mongole. Il se montre très accueillant aux influences iraniennes et hindoues. Et alors que la stagnation culturelle s'étendait sur le reste du monde de l'islam, cet empire connut de brillantes périodes d'humanisme et tout un art indo-musulman, aux grandes œuvres poétiques et architecturales et de peinture, hein, parce qu'on va le voir aussi avec les Perses safavides, hein, mais tout le débat actuel sur la question de la représentation en islam, il suffit de regarder un peu les productions culturelles de l'empire des Moghols ou l'empire safavide perse, pour voir que la question de la figuration n'est pas si tranchée que cela dans le monde de l'islam. Hein. Donc un grand rayonnement culturel, mais là aussi, au XIXe siècle, c'est la Grande-Bretagne qui fera de la péninsule indienne une colonie de la couronne, et le dernier grand moghol sera exilé en 1857. Donc on voit comment finalement, par l'histoire, ce sont les puissances occidentales qui mettent un peu un terme à différentes réalisations politiques du monde musulman de l'époque. De même pour l'empire perse safavide, 1502-1786, donc une période non négligeable, où la religion officielle n'est plus l'islam sunnite, mais le chiisme, et la Perse vivra une période marquée par un certain isolationnisme par rapport au reste du monde musulman du fait qu'ils sont chiites, mais aussi une période de développement de contacts importants avec les pays européens, période de commerce importante, hein, on le voit dans toutes les représentations de l'art en particulier, hein, donc beaucoup d'échanges commerciaux entre l'Europe et la Perse safavide. Ce fut aussi une période de production culturelle de prestige en architecture, peinture, tapis, bronze et céramique. Et enfin, nous retrouvons le Maroc qui poursuit sa destinée de façon autonome, avec cette fois-ci pour la période moderne un empire chérifien, c'est-à-dire ce qui veut dire que l'empire est supposé être commandé par un descendant de la famille du prophète. Cet empire a su garder son indépendance par rapport aux Ottomans. Il sera fondé au XIIIe siècle et il donnera différentes dynasties, dont la dynastie actuelle du Maroc, celle des Alaouides. Ce sont des musulmans sunnites, descendants de Hassan, petit-fils de Mohammed, par Ali, et par la même aussi attaché que les chiites à la famille du prophète. Et le souverain est donc à la fois chef temporel et chef religieux. Le roi du Maroc a encore aujourd'hui le titre de commandeur des croyants. Mais là aussi, 1912 à 1956, le Maroc sera sous protectorat français. Donc on voit comment le mouvement de colonisation par l'Europe marque l'histoire musulmane moderne au XXe siècle. Voilà une fresque évidemment très rapide, très générale, mais qui j'espère permet de voir un petit peu la diversité, quelques défis, quelques tensions. Je vais essayer d'en relever quelques-uns dans la perspective de nous dire quel est l'héritage de cette histoire pour notre monde aujourd'hui. En quoi cette histoire peut-elle nous aider, non pas à tout comprendre, parce que je crois que nous sommes dans une situation tellement complexe pour le moment que personne ne comprend tout, mais percevoir certains enjeux et éviter certaines incompréhensions. Le monde musulman aborde l'époque contemporaine dans une situation paradoxale. D'une part, tous les grands empires, qui ont incarné sa grandeur culturelle et politique n'existent plus. Cette rupture se marque de façon symbolique forte au lendemain de la Première Guerre mondiale, lors de l'abolition du califat et de la création d'une république turque laïque confinée dans ses frontières actuelles. Il faut dire que le calife ottoman était à ce moment-là le seul calife, successeur du prophète. Et donc les traités Versailles-Sèvres-Lausanne abolissent le califat, suppriment le pape. Et disent, vous pouvez continuer mais autrement, quoi, dans le cadre d'une république laïque. Donc c'est un geste symbolique très fort que portent les autorités, les alliés, en imposant la fin du califat. Et on décapite d'une certaine façon le principe symbolique, en tout cas, d'unité du monde musulman. Donc cette question de l'unité va devenir latente de façon prégnante dans tout ce qui va se vivre par la suite. Cette décision exprime aussi de façon déterminante la domination occidentale qui s'affirmait depuis longtemps sur le monde musulman. C'est très clair à ce moment-là. On peut abolir le califat comme occidentaux. C'est quand même... On domine fort. Hein. Et de manière encore plus forte aussi, la création d'Israël en 48 sera ressentie comme un affront et une violence inacceptables. Et la cause palestinienne deviendra finalement l'emblème de la solidarité musulmane face à la domination occidentale. La cause palestinienne remplace finalement le califat. C'est ça qui fait l'unité, malheureusement. Et d'autre part, l'époque contemporaine, le XXe siècle, est aussi marquée par, dès le départ, par l'accession à l'indépendance de pays ou d'États que la politique occidentale du XIXe siècle avait transformé en protectorat ou colonie. Entre les deux guerres mondiales, puis au cours de la deuxième, l'Arabie, le Liban, la Syrie, la Transjordanie, l'Égypte se libèrent d'abord de la séculaire domination ottomane, puis de la tutelle anglaise ou française. Après la Deuxième Guerre mondiale, nous assistons à la partition de l'Inde et à l'indépendance du Pakistan, 47, à l'indépendance de l'Indonésie, 49, de la Libye, 52, de la Tunisie, 55, du Maroc, 55 également, la Mauritanie, 60, l'Algérie, et les pays d'Afrique subsaharienne, à majorité ou forte minorité musulmane, ont également été pris dans ces mouvements d'indépendance et ont tous accédé à l'indépendance dans cette deuxième moitié du XXe siècle. La fin de l'Union soviétique a également amené l'émergence de nouvelles républiques musulmanes. Ce mouvement des indépendances, hein, si on le prend dans un sens large jusqu'à en y incluant hein, donc la fin de l'Union soviétique, ce mouvement des indépendances s'inscrit toutefois dans le cadre de frontières qui sont déterminées de l'extérieur. Ils ne choisissent pas leurs frontières. Et le Proche-Orient arabe restera toujours mal à l'aise en la multiplicité des frontières politiques tracées pour lui lors du traité de Versailles. Et on voit que le mouvement des indépendances s'accompagne presque toujours de la recherche d'unité politique plus large. La création de la Ligue arabe en 1945, la fusion de l'Égypte et de la Syrie dans le seul État de la République arabe unie, bon, ça ne durera que 3 ans, enfin entre 1958 et 1961. Et les aspirations nationalistes se conjuguent difficilement avec les aspirations religieuses. Dans les aspirations religieuses, il y a cette recherche d'une unité. Et donc, vous voyez, bon, autant ce qui se passe actuellement est monstrueux, mais que la question du califat, qui est revendiquée par une bande de terroristes actuellement, mais en ne respectant pas les frontières d'État, est une question qui n'est pas idiote. La question n'est pas idiote quand on le prend dans la perspective d'un héritage historique. Il ne faut évidemment pas faire ce qu'ils font. Hein, mais on voit que d'un point de vue d'histoire musulmane, c'est une question légitime de se dire qui fait l'unité, et ce n'est pas dans le cadre des frontières étatiques telles qu'elles ont été établies par les puissances occidentales. Dans tous ces mouvements, les aspirations nationalistes se confrontent parfois à des aspirations religieuses, des options davantage laïques se confrontent à d'autres religieuses. Il y a une division aussi très nette qui se marque par l'inégale répartition de la manne pétrolière, qui a introduit d'énormes disparités entre pays, entre États musulmans. La question de l'unité du monde musulman face à la réalité de la diversité des États est un premier grand défi auquel le monde musulman est confronté à l'époque contemporaine et dont la solidarité avec la cause palestinienne sera la seule expression concrète à travers toutes ces décennies. Cette situation paradoxale du monde musulman à l'époque contemporaine sera également à l'origine d'un large mouvement de réflexion religieuse au sein de l'islam, dont on peut situer l'origine dans la fondation de la revue Manar au Caire par Mohamed Abdou, qui a vécu de 1848 à 1905. Le point de départ de la réflexion est le suivant. L'islam est appelé à assurer le bonheur de l'homme, non seulement dans l'autre vie, mais dès ici-bas, et donc à prendre en charge toutes les évolutions techniques et scientifiques. Et pour ce faire, le point de vue de Mohamed Abdou, c'est de dire qu'il faut revenir à la foi pure des anciens. Si le monde musulman se trouve tellement décadent par rapport au développement de l'Occident, s'il se trouve dans une telle domination de division et de domination, c'est qu'ils ont quitté le chemin bon et droit de la foi des anciens. Et il faut donc revenir à la foi pure des anciens. Et c'est sur fond de ce questionnement sur les causes de la situation dégradée du monde musulman que se développeront les divers courants de l'islam politique tout au long du XXe siècle et qui se traduiront parfois dans des réalisations politiques effectives. C'est la source, mais des courants que nous voyons se développer actuellement et qui se montrent très actifs. Enfin, nombre de pays musulmans sont confrontés aux questions du développement social et économique. La question de la scolarisation, du statut de la femme, du développement économique dans un cadre international fondamentalement inégalitaire. Face à ces défis, certains États ont choisi de se tourner un temps vers des modèles de type socialiste, sans toutefois obtenir les résultats escomptés suite à une bureaucratisation extrême et à des régimes de privilèges de parti unique. Donc nous voyons aussi comment les aspirations, la réponse de type religieux s'inscrit sur des frustrations face à d'autres essais. On a essayé le socialisme et ça n'a pas marché. Et donc le XXe siècle s'est terminé finalement sans apporter au monde musulman de réponse satisfaisante aux aspirations qui s'étaient exprimées dans les différents domaines relevés, que ce soit au niveau de l'unité du monde musulman et de la question palestinienne. Rien avancé. Un renouvellement religieux porteur d'un renouveau social. Rien avancé. Développement social et économique. Et pour les pays qui ont la manne pétrolière, ok, mais les autres. Puis, il y a eu l'instrumentalisation par les États-Unis de certains courants religieux aux fins de déstabiliser l'URSS qui a contribuer à la mise en place de courants contestataires violents qui se retournent aujourd'hui contre l'Occident, quand ils ont vu qu'ils étaient capables de déstabiliser l'URSS et d'être instrumentalisés pour ça. Ils se sont dit, quand il n'y a plus d'URSS, on peut trouver notre cible. Et donc, là, il y a sans doute eu une responsabilité importante du rôle des États-Unis, en particulier au moment de l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS. En 2011, les différents mouvements qui se sont développés dans plusieurs pays arabes et qu'on a voulu regrouper sous la forme de printemps arabe on fait penser qu'il pourrait y avoir des éléments neufs. Ce qui s'est passé dans ces printemps arabes, c'est que finalement, ben, un certain nombre de dictatures, je vais les appeler par leur nom, se sont trouvées renversées. Mais elles n'ont pas été remplacées par des régimes qui étaient capables de mettre en place une structure d'État, une structure politique solide et cohérente. Et ce qui fait que tous ces pays sont dans une situation de fragilité extrême. On le voit avec la facilité par laquelle des mouvements contestataires comme Boko Haram ou l'État islamique, etc., peuvent s'emparer de territoires gigantesques, de villes, etc., sans rencontrer de vis-à-vis d'une structure étatique. Donc ces printemps arabes ont sans doute mis fin à des dictatures fortes, mais laissent avec beaucoup de questions sur ce qui pourra se développer par la suite. Dans le cas de ces printemps arabes, ce qui était intéressant, c'est que des revendications nouvelles ont vu le jour, fondées sur la liberté et la démocratie, qui pourraient peut-être conduire à de nouveaux espaces d'expression politique et de structuration des sociétés civiles, mais ça risque d'être au prix avant ça, au prix de guerres civiles longues et féroces qui risquent de ravager nombre de pays. Il est en tout cas encore trop tôt pour évaluer la nouvelle donne que le XXIe siècle nous ouvre. Nous sommes devant un monde tout à fait multipolaire qui se doit de relever tous les défis des tensions héritées de l'histoire, et j'espère que ce petit parcours historique, très sommaire évidemment, dans l'espace d'une heure, 15 siècles, ça fait 4 minutes de le siècle, de pouvoir relever quelques enjeux quand même, et de se dire que tout n'était pas aberrant et à caricaturer, mais qu'il y a parfois de vraies questions qui se posent. Merci de votre patience.